Et bonsoir et bienvenue en direct du local Aquilonet sur Radio Girol pour à peu près une heure d'émission autour des cultures libres, du logiciel libre et vous verrez ce soir de la cartographie libre. Vous nous écoutez aussi sur Radio Station Essence et vous êtes aussi les bienvenus. Nous sommes en direct, donc comme je disais, n'hésitez pas à réagir soit sur le canal IRC du collectif, vous pouvez venir directement sur notre site www.girol.org. Il y a normalement une petite applette pour vous connecter, sinon c'est sur Freenode, irc.freenode.net, le canal Girol. Vous pouvez aussi réagir à l'émission sur Mastodon, nous avons un collectif sur le serveur d'Aquilonet, collectif, @girol, donc sur poète.aquilonet.fr. Au programme de ce soir, le traditionnel agenda. Nous allons voir ce qui se passe dans le mois à venir autour des cultures libres sur Bordeaux et les alentours. Nous allons parler d'OpenStreetMap avec Vincent. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Vincent, tu es administrateur OpenStreetMap et contributeur aussi.
Alors, contributeur OpenStreetMap et effectivement au conseil d'administration de l'association OpenStreetMap France.
Voilà, donc on parlera de cartographie. Viendra ensuite Peror dans une deuxième partie d'émission qui devrait pas tarder à arriver, qui va nous discuter avec nous de sécurité informatique. Ce soir, nous sommes aussi avec Isa. Bonsoir Isa.
Bonsoir.
Isa que vous connaissez tous. Côté musique, on écoutera un petit peu d'électro, un petit peu de big beat, enfin un morceau qui me fait penser un peu à la big beat, à la bonne époque de Prodigy, et on écoutera aussi de l'électro, comme je l'ai dit. Voilà. Alors côté agenda. Alors, patientez deux secondes.
Et oui, il faut aller chercher l'agenda.
Il faut aller chercher l'agenda parce que du coup, c'est Simage qui le fait, mais Simage ne sera pas avec nous trop tôt. En fait, elle arrivera un peu plus tard. Unbi qui change effectivement de local pour leur permanence mensuelle. Il faut aller voir sur le site unbi.fr. Voilà. Côté Abule, rien. Bah, c'est les fêtes de fin d'année, donc ils ne seront, pour l'instant, il n'y a rien de prévu avant le 12 janvier. Mais du coup, on en reparlera sur la prochaine émission, la première émission de 2019. Oui. Côté Aquilonet, il y a éventuellement le premier mardi du mois, donc ça nous amène au mardi 1er janvier. Et bien, comme c'est le 1er janvier, c'est annulé, il n'y aura rien.
Ben, il y aura peut-être quelqu'un, il paraît, mais de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Hein,
c'est rien d'officiel, du coup.
Voilà, rien d'officiel.
Voilà, il y a quelqu'un qui a posté un albuledu.org/calendrier de Noël.
Je regardais un petit peu, effectivement, mais c'est un peu des livres pour les enfants, etc. C'est une sélection, ce que j'ai pu voir rapidement là tout à l'heure.
Voilà, c'est une bibliothèque numérique avec une espèce de calendrier de l'Avent.
Voilà, c'est ça, un calendrier
pour Noël, avec des livres. Je vois pas de mention de licence, donc on pourrait.
Après, c'est à l'intérieur.
Vu que c'est Abule Edu, ça sera des licences libres.
Voilà, sûrement. J'ai vu passer dans un article la référence à la licence art libre. Donc, il y a des dessins, il y a des bouquins pour enfants. La plupart des choses que j'ai vues, quasiment tout, c'était
voilà,
pour les
donc
enfants.
C'est abuledu.org/calendrier Noël. Sinon, c'est www.littérature-jeunesse-libre.fr. Voilà, on va s'écouter un premier morceau de musique. Je vous propose le morceau s'appelle Busted, c'est d'un artiste qui s'appelle Net, c'est en Creative Commons by NCSA, donc on peut partager avec en mention de l'auteur, mais pas de travaux dérivatifs et pas d'utilisation commerciale. Et nous on se retrouve juste après pour parler de cartographie libre.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.
Radio Girol.
Thank you.
T'écoutes Radio Giron.
Et nous revoilà donc toujours en direct du local à Quillonnet à Bordeaux. Donc, comme je le disais en introduction, nous accueillons Vincent et nous allons parler de OpenStreetMap. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que OpenStreetMap ?
Oui, OpenStreetMap, c'est une base de données cartographique. Donc, c'est un moyen de renseigner à peu près tout ce qui nous entoure. Qui est mondial, réutilisable, sous licence ODBL, Open Database License, ce qui est en gros l'équivalent de la Creative Commons CC BY-SA, donc permettant réutilisation à partir du moment où on cite les auteurs, à savoir les contributeurs OpenStreetMap.
D'accord. Du coup, en France, la communauté OpenStreetMap est quand même assez développée et on a une, d'après ce que j'ai compris, tu pourras confirmer, on a une certaine particularité, c'est que l'État, par le biais des cadastres, si je crois, participe en fait à sa façon à OpenStreetMap puisque les données du cadastre sont en open data et peuvent être réutilisées dans OpenStreetMap.
Oui. Alors, effectivement, la communauté française est assez importante. Hein, ça doit être la quatrième ou cinquième communauté internationale. Elle a effectivement, il y a entre 1500 et 2000 contributeurs mensuels réguliers. Et depuis 2009, il y a un accord de la DGFiP donc, qui produit le cadastre pour qu'il y ait une utilisation par OpenStreetMap pour l'intégration, entre autres, de tout le bâti. Donc le bâti des communes, ainsi de suite, a été au fur et à mesure intégré dans OpenStreetMap et continue à être intégré. Alors en plus là, depuis septembre 2017, le bâti et le cadastre dans son ensemble ont été mis sous licence ouverte en LO. Donc du coup là, on a vraiment une facilité d'utilisation pour améliorer OpenStreetMap et intégrer tout ce qui est bâtiment, mais au fur et à mesure d'autres formes. Et d'autres informations du cadastre arrivent.
On a notamment le cas à Bordeaux de l'implantation des arbres qui est, il me semble, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui est du coup sous licence, qui est en open data. Et donc on retrouve sur OpenStreetMap non seulement l'emplacement des arbres, mais l'essence et aussi l'âge des arbres.
Oui, c'est des données qui ont été libérées par la mairie de Bordeaux. En particulier les espaces verts, le service, qui a mis du coup toutes ces données en données ouvertes, effectivement, sous licence aussi à l'eau. Et un contributeur, pour ne pas le citer, a intégré et travaillé à l'intégration des je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'arbres, intégrant toutes les informations que les services des espaces verts avaient, donc date de plantation, type de plante. Diamètre, hauteur, circonférence, espèce, tout ce que l'on peut imaginer qu'un service d'espace vert d'une commune a comme information sur les arbres.
Et alors, juste pour alimenter un peu la polémique, est-ce qu'ils ont pensé à lever les marronniers qui ont été abattus place Gambetta ?
Alors, c'est pas eux, parce que c'est. Mais par contre, c'est nous qui sommes en train de les sortir au fur et à mesure qu'on les voit tomber, malheureusement.
Non, c'est
mais
juste...
on les met à jour. Mais effectivement, malheureusement, du coup, on les ressort aussi d'OpenStreetMap. Ouais.
Du coup, OpenStreetMap a pris ces dernières années, deux dernières années, un peu plus d'importance puisque l'application de cartographie la plus utilisée jusque-lors était Google Maps. Google ayant décidé de fermer les vannes et de demander aux gens d'ouvrir le porte-monnaie. Est-ce que, du coup, cette annonce a permis d'amener plus de contributeurs ou plus de gens utilisant les fonds de cartes OpenStreetMap ?
Alors, il y avait déjà un mouvement assez fort. Parce qu'aujourd'hui, OpenStreetMap, c'est 3 ou 4 milliards de points. C'est 1,8 million de points quotidiens qui sont ajoutés dans la base de données. Donc c'est quand même quelque chose qui connaît une extension assez, assez énorme. C'est des données libres et la question de l'utilisation de ces données est forcément de plus en plus... présente pour tout le monde, donc de plus en plus de collectivités, de structures, d'associations, d'entreprises utiliser les données OSM, le petit mot pour OpenStreetMap. Et c'est vrai que l'annonce en mai de Google de dire qu'ils allaient faire baisser très très nettement le nombre de vues possibles des Google Maps et augmenter le tarif, donc on est sur un rapport quasiment de 14 entre le nombre de vues visible et le prix à payer derrière. fait que, au moins sur les serveurs d'OpenStreetMap France, mais on a bien vu les effets avec de nombreuses structures qui se sont rabattues sur les serveurs de tuiles que l'on peut héberger. Mais au niveau international, la fondation OpenStreetMap a également pu enregistrer une montée en charge assez impressionnante de l'usage des tuiles, ce qui pose plein de soucis aujourd'hui et plein de questions, parce que ça veut dire que c'est des... pas mal d'entreprises, de collectivités qui se tournent sur des serveurs communautaires qui sont gérés par des bénévoles qui n'intègrent pas complètement ça comme étant un service à part entière. Ils imaginent que tout est gratuit, on les a habitués à ce que tout soit gratuit. Donc là, voilà, il y a aussi un travail là de d'explication de ce que ça signifie aujourd'hui d'avoir des fonds de cartes libres avec de la donnée ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut les personnaliser?
Est-ce que ça coûte? Parce que je suppose que l'infrastructure derrière est titanesque.
Ah oui, oui, l'infrastructure, oui.
Alors, tu m'entends? C'est bon?
Oui, oui.
Ah, oui, bonsoir. Voilà, j'ai oublié. Le géoportail, il y a des cartes aussi qui sont produites par une administration.
Oui, oui, l'IGN. Entre autres, l'IGN met pas mal de données dessus. C'est pas le même usage. L'IGN a forcément à destination beaucoup plus de collectivités et tout ça qui peuvent s'en servir. Après, les données sur le portail et même les fonds et les cartes sont pas forcément libres et réutilisables facilement. Il y a des questions de licence. Donc, il y a aussi des accès pour des pros. Donc, on n'est pas du tout tout à fait sur le même usage. Aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de récupérer les données OpenStreetMap pour faire apparaître exclusivement un certain type de point qui l'intéresse, que les restaurants sur une ville, peut récupérer les données et faire un rendu cartographique, un affichage qui mettra en avant que les restaurants. Un autre qui a envie de mettre que les associations comme Aquilenet du réseau des fédérations françaises des fournisseurs d'accès peut faire ce réseau-là.
Dans la bouche le micro.
Non, ce n'est pas une glace.
Vraiment. Merci.
Voilà.
Okay. Et donc la relation avec Kant, parce qu'au départ, moi, je t'avais contacté par rapport à cette petite.
On y venait justement. La première annonce, c'est qu'effectivement, oui. Quant, qui est un moteur de recherche français, qui du coup par le souci, enfin, de plus en plus important qu'ont les Français, je pense, la population mondiale à sa vie privée. Du coup, Quant et comme DuckDuckGo sont des moteurs de recherche alternatifs qui montent. Quant est un projet français qui en plus réussit à attirer quand même des gens. Des pointures comme Guillaume Champeau qui avait créé Numérama ou Tristan Nitto, rien que lui, du coup à rejoindre ses rangs, et ils ont annoncé cette semaine ou la semaine dernière Quant Map, donc un service de cartographie, si j'ai bien compris, et qui est basé sur OpenStreetMap.
Oui, c'est ça. Ben, c'est service de cartographie en ligne avec à la fois recherche d'adresse, recherche de services et informations. Et l'ensemble des données derrière sont des données provenant d'OpenStreetMap. Donc avec aussi bien l'affichage effectivement du restaurant qui est à côté que de l'école, ainsi de suite, avec les informations qui sont contenues dans OpenStreetMap. Donc ils peuvent... parfois paraître légères. L'intérêt, c'est que par contre, tout le monde peut les améliorer et donc tout le monde peut participer à rajouter de l'information. Donc aujourd'hui, on a sur certaines villes, sur certains lieux où des gens ont vraiment rempli les informations, aussi bien les horaires d'ouverture de la boulangerie que à qui s'adresse la maison de retraite, son nom, et ainsi de suite. Donc on a de plus en plus d'informations et chacun peut les modifier. Et elles sont libres.
Et donc ma question c'était ça, est-ce que Quant va utiliser les services, mais est-ce qu'ils vont redonner aussi, est-ce qu'ils vont faire de eux du contenu dans OpenStreetMap et du coup rendre à OpenStreetMap, tu vas faire des allers-retours soit en programmation, soit en contenu ou autre chose, est-ce que c'est un partenariat?
Alors c'est pas un partenariat directement avec OpenStreetMap France ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que la base de données, ils s'en servent, elle est faite pour ça. Ils jouent le jeu par contre, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est leur première version qui est sortie il y a 15 jours. Ils annoncent un planning de développement qui va, être effectivement intégré de plus en plus d'informations venant d'OpenStreetMap, donc l'exploiter de plus en plus, ce qui est déjà une très belle contribution à OpenStreetMap, parce que ça donne envie à des gens de...
Ça donne de la visibilité.
Mais ça donne de la visibilité, ça donne envie à des gens à y contribuer. Donc la base de données, elle prend de l'intérêt. On peut la modifier, on peut la changer, on peut l'améliorer, ainsi de suite. Après, ils jouent aussi le jeu. Tout le projet est sur GitHub, en licence ouverte. Les développements sont dessus. On peut faire des remontées s'il y a des problèmes. Il y a un travail autour de la communauté pour faire... améliorer la carte aussi. Donc ils jouent plutôt pas mal le jeu pour le moment. Après, leur contribution, c'est pas directement contribuer dans la base de données OpenStreetMap, même si parmi certains des salariés de Quant, il y en a quand même un bon nombre qui sont aussi des contributeurs.
D'OpenStreetMap, d'accord.
Voilà.
Et mon autre question, c'était que je viens de perdre. Alors ça, c'est super. Je l'avais il y a 30 secondes. J'en avais une vraie.
Cherche-la sur QuantMaps.
Ouais, c'est ça. Non, c'était pareil. Enfin, moi, je sais que l'une des critiques qu'on peut avoir sur OpenStreetMap, quand on essaye de montrer ça à des personnes qui sont utilisateurs de Google Maps, ça va être déjà, il n'y a pas l'autocorrection ou le fait qu'on ne trouve pas une ville facilement.
Le géocodage.
Parce qu'on s'est trompé sur. On n'a pas mis avenue en entier, on a mis QAV. Des trucs comme ça. Ça, c'est un vrai problème pour un. Pour plein de gens qui n'ont pas exactement la bonne orthographe des fois, parce que des fois on met AV parce que c'est avenue et que c'est une habitude. Enfin, voilà. Est-ce que...
En fait, c'est assez logique parce que OpenStreetMap, c'est pas le service de géocodage. OpenStreetMap, c'est la base de données. Donc après, il y a effectivement sur OpenStreetMap.org un service qui fait de la recherche dans les adresses, qui est brinque-ballant, qui est pas le truc qui marche le mieux. C'est pour ça qu'on est content qu'une structure comme Quant, mais comme il existe aussi d'autres services, Photon, des services de géocodage ou de GPS comme OSMand sur son téléphone portable,
oui,
où là, les systèmes de recherche d'adresses sont beaucoup plus performants. Ils se basent sur de la donnée OpenStreetMap, mais c'est le logiciel pour aller chercher l'information qui est plus performant.
D'accord, qui va trier...
qui va mieux trier, qui va être capable effectivement de dire à cet endroit-là, il y a une faute dans avenue, mais je sais quand même reconnaître le fait que ça veut dire avenue. Sur le site openstreetmap.org, qui est la porte d'entrée pour voir le projet, le moteur de recherche, il n'est pas très performant, mais il faut imaginer que c'est aussi un moteur... Enfin, chaque changement est pensé au niveau international dans des échanges entre les contributeurs et les quelques centaines de milliers de contributeurs, et y compris faire changer le système de recherche d'adresse n'est pas aussi simple. QuantMaps, aujourd'hui, le permet. C'est-à-dire que du coup, là, ils ont lancé un truc, ils ont un géocodage qui marche mieux, on le fait, ça fonctionne, et il y a d'autres services qui se développent de géocodage, ainsi de suite.
D'accord. Et donc, maintenant, parce que moi, la question que je me pose, c'est par exemple, moi, je vais utiliser l'intégration de cartes sur des sites internet pour montrer où on est, l'association, elle est là, ce genre de choses. Mais du coup, ça fait un lien vers OpenStreetMap, et j'ai des personnes qui, du coup, me font ce retour. Ah ouais, mais alors, pour trouver une adresse, ça, c'est pas facile. Est-ce que. Si par exemple, il faudrait à ce moment-là que ce soit Quant qui propose ce service de cartographie entre guillemets à intégrer dans son site internet pour que là du coup il y ait un lien vers leur service à eux qui peut faire ce géocodage plus amélioré.
Il y a ça, il y a le fait d'utiliser un autre service comme UMAP ou Framacart qui sont tous les deux des services basés sur le logiciel UMAP qui ont un moteur de recherche aussi d'adresses qui est un peu plus performant. Nominateam, qui est le moteur utilisé sur OpenStreetMap.org, n'est pas le moteur de recherche le plus performant,
d'accord.
On le sait. Et c'est pas mal discuté dans la communauté internationale.
Non, mais après, ce n'était pas une critique.
C'est une critique connue.
C'est vrai que moi, je suis... Oui,
c'est
je
une
m'en
critique
doute
connue,
un peu,
donc c'est pas un souci. C'est vraiment se rappeler qu'OpenStreetMap, c'est la base de données. Après, il y a de plus en plus de services qui se développent autour et donc qui sont en train d'améliorer la visibilité de cette base de données et donc qui permettent d'avoir de plus en plus de gens qui ont aussi envie d'améliorer la base de données.
Oui, c'est un projet qui est énorme déjà.
Ouais. Le dernier exemple en date, c'est qu'on a quand même dans le futur programme des secondes pour dans le cadre de la réforme du baccalauréat, on a une compétence qui est identifiée, contribuée à OpenStreetMap de manière collaborative.
Oh.
Donc on imagine qu'il pose plein de questions qu'on va avoir potentiellement quelques centaines de milliers de secondes chaque année qui vont devoir contribuer à OpenStreetMap. Ça paraît super. Et en même temps, avec des gens qui ne sont pas formés au niveau de l'encadrement, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, on est aussi en train d'essayer de travailler. Non, mais on va commencer à travailler là plutôt. Là, c'est ma casquette plutôt OpenStreetMap France. À travailler aussi avec des collectivités pour réfléchir à ça, quoi. Parce que c'est bien gentil d'annoncer ça, mais comment les gens y font quand ils ne savent pas ? Donc il faut qu'ils apprennent aussi avant de pouvoir imaginer se lancer à contribuer à OpenStreetMap comme ça.
C'est surtout apprendre à désapprendre, à utiliser les services simplissimes qui se veulent simplissimes pour capter justement l'attention de concurrents comme Google Maps ou Bing Maps ou que sais-je encore, pour les pousser vers le monde de la contribution où on pose une petite brique à un projet déjà qui est d'envergure.
Oui. Alors après, c'est sûr qu'il y a le fait de perdre ses habitudes, il y a le fait de comprendre les enjeux, il y a le fait de se dire « Ah oui, je peux contribuer aussi, je peux participer à un projet, je peux... » Moi, je le fais avec des enfants de primaire, CM1, CM2. Quand ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire va être accessible partout dans le monde, réutilisable par d'autres, que s'ils font n'importe quoi, il y a aussi des gens qui sont ailleurs qui vont leur dire « Attention, tu es en train de faire n'importe quoi » et que ce n'est pas que leur professeur. Mais du coup, ils rentrent dans la dynamique du projet contributif, du projet collaboratif. Et c'est vachement intéressant à travailler avec eux.
Ça a l'air vachement bien, oui.
Ah, moi, je m'amuse avec, hein, ça c'est sûr.
Alors, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais, Simage, et parler un peu de mon expérience personnelle avec OpenStreetMap. Donc, on en discute depuis longtemps au collectif Girol. On a eu des personnes comme Frédérico Rodrigo qui sont venues nous faire des ateliers de contribution. Moi, je suis utilisateur d'OSM AND depuis très longtemps. J'ai vu le début où, comme tu disais, il était quasi impossible de chercher correctement une adresse si on mettait pas à la virgule près l'adresse. Et au fur et à mesure que l'outil a gagné en popularité, ses développeurs se sont impliqués plus. Le modèle économique de l'application s'est développé parce qu'ils ont effectivement l'application libre, mais ils font aussi du développement spécifique. Je crois qu'il est utilisé par quelques sociétés de transport, par exemple. Et on a vu les choses s'améliorer pour arriver aujourd'hui à un stade qui est plus qu'utilisable.
OSM, il est très bien.
En fait, on est vraiment dans une logique où on a besoin des deux. On a besoin à la fois des services, et donc des logiciels, et on a besoin des données, et donc de la base de données. Et en fait, les deux avancent au fur et à mesure ensemble, et au fur et à mesure, les deux s'améliorent. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui peuvent voir les services et utiliser les services, ben ça veut dire de plus en plus de personnes qui contribuent à la base et des moyens de plus en plus simples de contribuer aussi à la base de données. Le fait qu'il y ait de plus en plus de données permet de commencer à imaginer aussi des services. Aujourd'hui, c'est la question de faire du routage pour des personnes en fauteuil. Comment je vais d'un point A à un point B quand je suis en fauteuil roulant ? Si on a la donnée, on peut avoir le service. Et on a des moteurs qui commencent à permettre d'avoir des profils d'utilisateurs qui vont jusqu'à des détails fauteuil électrique, fauteuil non électrique, à pied, à vélo. Et donc de rentrer dans... Mais il faut la donnée. Mais il faut le service aussi pour que la donnée devienne utilisable. Et donc c'est des allers-retours qui font ça au fur et à mesure. Et c'est ce qui permet que ça s'améliore. Alors la partie visible, et je la reprends, n'est pas le cas sur le site principal. Mais le débat maintenant est là depuis tellement de temps que dans un moment, je pense que ça va changer.
Ceci étant dit, on peut tout à fait comprendre qu'OpenStreetMap se consacre avant tout sur le fond de carte. Et parce que définir des normes, comme tu disais, au niveau mondial, sur comment on fait pour symboliser des routes, des panneaux, les limites de vitesse, etc. Rappelons-nous, c'est au niveau mondial et contributif, ça a déjà suffisamment compliqué en soi pour se poser la question d'exploiter comme il faut ces données pour par exemple le routage ou le géocodage.
Et puis de plus en plus, c'est aussi l'articulation avec toutes les autres bases de données. C'est l'articulation avec Wikipédia pour les articles, c'est l'articulation avec Wikidata sur les objets, c'est l'articulation avec Mapillary sur les photos, c'est l'articulation avec toutes les bases de données ouvertes qui sont libérées, avec les obligations maintenant depuis octobre 2018 pour toutes les collectivités en France, par exemple, de libérer les données. Donc on a aussi l'intégration de toutes ces données pour que tous s'interconnectent.
À quand OpenStreetMap ? Street View, OpenStreetMap View.
Il y en a déjà en fait. Mapillary, c'est un projet de contribution. 3D, alors c'est pas de la 3D, c'est de la photo, c'est du Street View avec son application sur le téléphone, des caméras, mais avec des entreprises
c'est vrai,
qui font ça.
J'avais vu passer un truc que tu avais fait. Vous aviez dans le bus, il y avait une application qui permettait de prendre des photos le long de son trajet. Et toi, tu avais fait un truc spécial. Non, tu avais pas fait un truc spécifique il y a pas très longtemps, cet été ou...
Non, bon, d'accord, je joue régulièrement avec un, donc c'est possible.
T'aurais peut-être
parlé
un jour.
Mais là, on a par exemple une entreprise comme Mappy, on connaît le service en ligne Mappy. Ils ont des voitures, donc qui font les Mappy Cars. Et les Mappy Cars envoient toutes leurs photos sur Mapillary, donc le projet qui est un projet international. Aujourd'hui, c'est 400 millions de photos en CC by SA. Hein,
d'accord.
Réutilisables par tous, qui couvrent le monde en Street View. Donc, dès qu'on commence à lier une image d'un objet dans OpenStreetMap, ça veut dire qu'on peut facilement afficher l'image liée à l'objet à un endroit, ainsi de suite. Et ça nous aide à cartographier aussi, puisqu'on a, ça veut dire qu'on a de l'image à jour.
Ouais.
On n'est pas
ouais.
dépendant d'une photographie aérienne à un temps T. On a besoin d'un endroit, on prend son vélo, on met sa caméra dessus, on fait 10 km, on revient, on a 5000 photos qu'on a envoyées sur Mapillary, qui s'occupent d'anonymiser,
ah
de
oui,
les resservir.
Plus.
Mais qui s'occupe de toute la partie qui permet qu'on ait le droit de s'en servir derrière, d'anonymiser, qui a aussi libéré des outils pour exploiter ces photos facilement.
C'est énorme.
Ah, c'est énorme. Mais c'est, on a plein de projets collaboratifs comme ça qui, petit à petit, à leur échelle, prennent aussi du lien. Mais parce qu'on a aussi une infrastructure de logiciels derrière qui permet de le faire, et des logiciels libres, parce que là, on parle sur des cercles vertueux.
Ouais.
En termes de logiciels libres, données ouvertes, pédagogie et information libre et ouverte aussi. Tu parlais d'abus d'édu tout à l'heure, mais voilà, des bouquins, des livres qui sont en licence libre. Et ben on les a aussi sur tout ce qui est logiciel, sur la documentation pour que tout le monde s'en serve, ainsi de suite.
Mais enfin justement en tant qu'utilisateur fanboy, je dirais d'OSM AND, je l'utilise moi quand je pars en voyage. Enfin, je vous le conseille parce que tu disais la transversalité de tous ces outils, elle se retrouve bien dans ce logiciel où on va télécharger la carte. Je sais pas, je vais à Lisbonne, je télécharge la carte de Lisbonne. Du coup, j'ai plus besoin de connexion internet une fois là-bas parce qu'elle est stockée en local sur mon téléphone avec le fond de carte Wikipédia où il va me placer du coup les points Wikipédia. Et lié avec Mapillary, si j'ai... Alors là, je crois qu'il faut une connexion Internet, mais bon, maintenant, en Europe, on a facilement de la 4G un peu partout, avec des photos pour voir les monuments et puis pouvoir faire du tourisme, en fait, tout simplement, avec une petite application open source. Enfin, plus si petite que ça maintenant, mais...
Qui a pris du volume et qui est utilisé aussi maintenant... a priori par la police, par des gens qui ont besoin aussi d'avoir hors ligne, de ne pas se poser la question de comment on va à un endroit ou à un autre. Enfin, on est sur des choses qui marchent de mieux en mieux, ouais, c'est sûr. Je parlais de la police parce que c'était le projet du mois de novembre. Hein, de OpenStreetMap France a un projet par mois et c'était de renseigner tous les commissariats, postes de police, gendarmerie de France.
Vous prépariez un truc pour être sûr qu'ils ne sortent pas ?
Même pas. Même pas.
Non, je suis sûre qu'il y a un complot quelque part. Qu'il y a des gens de OSM qui s'en
émouvent. C'est très d'actualité, les complots. Bon, en tout cas, merci beaucoup Vincent pour ta participation.
Avec plaisir.
Et on
merci
espère
à
te revoir bientôt pour nous parler encore d'OpenStreetMap. On va s'écouter un petit morceau. Je vous propose Go Alice, Nothing to be Sad de l'album, pardon, Perfectible is Terrible. Il me semble que c'est en Creative Commons, toujours pareil, pas de travail dérivatif et pas d'utilisation dans le commercial.
Arrête de me regarder. Bien sûr que je n'ai pas les infos. Je suis arrivée une demi-heure en retard.
Bon, on a commencé un quart d'heure en retard nous-mêmes.
Mais c'est pas une bonne raison.
Et si du coup on a une petite mauvaise nouvelle, c'est que Péror qui devait nous faire du coup un petit topo.
Ne viendra pas. Je pense qu'il est chez lui. Il nous écoute.
Voilà.
Et il nous fait arg.
Voilà.
Du coup, je lui ai dit c'est pas grave. Ça allait plus de place à OSM. C'est bien. Ce sera pour la prochaine fois.
En même temps, on était en retard et on va peut-être finir 10 minutes en retard. On va parler peut-être jeux vidéo après, comme c'est traditionnel.
J'aurais bien dit un petit mot quand même sur mes podcasts. Là, j'avais envie de faire un peu plus. Et puis, c'est des questions que je me pose. Donc, je pense que vous aurez peut-être des.
Eh bien, on va discuter podcast alors après. Et ensuite, jeux vidéo.
Pour 5 minutes, hein, je fais un petit coup de pub.
Du coup, on s'écoute quand même. Go Ask Alice, Nothing to be Sad.
Thank you.
écoutes Radio Giraud.
Et voilà, de retour, vous êtes toujours en direct du local Aquilonet à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons. Alors Simage, tu voulais nous parler de podcasts.
Oui, alors deux podcasts tournés vers la sécurité informatique. Vous m'entendez bien, c'est bon? Non, mais parce que je m'entends pas, les gens se rendent pas compte de ce que ça fait comme effet.
Ouais, de pas avoir les retours.
Le premier, je les aime bien parce qu'ils font comme nous ce soir, ils boivent de la bière en même temps qu'ils parlent sécurité informatique. Ça s'appelle le comptoir sécu. À la vôtre, les gars. Bon, nous, on n'a pas des bonnes bières. Alors, parce qu'eux, à chaque fois, ils commencent leur podcast en disant quelle bière ils boivent. Ils vont boire ce soir. Ben, donc, souvent, ils ont des plutôt bonnes bières. Là, ce soir, nous, c'est pas très joli, donc je vais rien dire. Ben, on a de la chimée. On peut dire quand même qu'on a au moins de la chimée.
On a de la chimée. Hein.
Ça reste classe, la chimée. Mais, voilà. Donc, c'est un podcast sur la sécurité informatique et je suis en train de chercher si c'était bien eux qui avaient parlé du dossier du... Non, c'est les autres. Voilà. Alors, eux, ils ont parlé il y a un an. J'ai écouté un... Oui, je sais. Mais ils font des podcasts réguliers. Mais il y a un an, ils ont parlé du RGPD qui est arrivé bientôt en mars. Et tous les... Enfin, plein de gens de l'informatique étaient hyper contents du RGPD. On allait enfin protéger les données. C'était super. Enfin, vous irez écouter le podcast si vous voulez, en particulier celui-là. Ils sont hyper motivés. Vraiment, ils sont très contents. Voilà. J'aimerais bien avoir le retour aujourd'hui. Il me tarde d'écouter le podcast, le RGPD. Et alors, où on en est? Je pense, enfin, je sais pas s'ils en sont revenus ou pas. J'ai entendu d'autres personnes dans la sécurité informatique qui disent que finalement ça complique beaucoup de choses, mais que ça aide pas forcément tant que ça.
Non, ça donne un support à tous les geeks emmerdeurs qui ont envie de faire chier les gens et d'envoyer, enfin, les entreprises qui de toute façon bafouent nos données personnelles et en leur envoyant des courriers, leur demandant où ils ont eu les données, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont. C'est assez drôle.
Et du sur la gestion des cookies aussi, il y en a qui s'amusent à mettre tellement de trucs à cocher qu'on accepte si vraiment on veut accéder au site. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui font
Si tu veux vraiment faire quelque chose, à un moment donné, tu vas craquer, tu vas dire oui, tout accepter là, parce que moi j'en ai déjà fait quelques-uns, c'est des listes à la Prévert, quoi. Et puis parfois ils te mettent tout en détail, ils te mettent tous les ads, les gestionnaires de publicité, mais vraiment tout en détail. Ils regroupent même pas, tu vois.
Ah oui, moi j'ai adoré, je suis tombée sur un site comme ça, tu avais tout.
Et t'es obligé de coucher un par un.
T'en as des centaines. Oui, il y en a des centaines. Non mais là, tu fermes le site, tu te casses.
Il s'avère que d'après certains, effectivement, c'est pas tout à fait légal, c'est pas en accord avec le RGPD. Et sinon, je ne saurais que conseiller aux gens d'utiliser U-Matrix, par exemple, qui est un U-Block Origin. D'ailleurs, c'est le même créateur, mais en bien plus hardcore et qui permet de dire, bah non, j'accepte aucun cookie.
Oui, mais après, là, on est dans un usage de ton navigateur. Moi, par exemple, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a des sites d'administration qui te disent, non pas accepter ou pas les cookies, mais ou comment accepter, lesquels accepter, mais voici comment configurer votre navigateur pour que lui-même n'accepte pas les cookies, si vous les voulez pas. Alors que j'ai cru comprendre que dans le règlement, il faut bien un opt-in.
Oui.
Il faut bien une action pour chaque site, entre guillemets, de dire oui, j'en veux, non, j'en veux pas, et de pouvoir configurer en fonction du site ce qu'on veut. Mais après, j'ai peut-être pas tout compris.
On
parce
voit
que
bien
je suis
qu'il
pas
y a certains sites qui ont les mêmes formats, on va dire, qui ont les mêmes.
Oui, t'as Comcast ou un truc comme ça, ils utilisent la même régie de pub en fait, et du coup.
Voilà, mais le truc, c'est que ils ont dit, il y en a des différents, il y en a qui sont très complexes à comprendre quoi. Donc oui, c'était peut-être pas la bonne idée. De les laisser
c'est pas l'idée qui est mauvaise, c'est l'application et le détournement de toute façon que font toutes ces sociétés
j'ai quelqu'un qui m'a dit aussi en fait c'est n'importe quoi, on se croirait revenu dans les années 2000 ou quelque chose comme ça, enfin je sais plus exactement parce que c'était en coup de vent, mais une idée comme ça de quelque chose de très fastidieux à chaque fois qu'on ouvre un site, il faut d'abord faire des choses pour vérifier qu'on est bien d'accord avec ou pas. Alors et on a pris tellement l'habitude en même temps, c'est vrai, de tout dire ok, vas-y.
Bon, moi je ne saurais conseiller aux gens que d'aller sur Next Impact et aussi sur Next Impact parce que eux au moins ils respectent. Et puis il y a Next Impact aussi qui marche bien. Et le site de Girol, vous pouvez écouter les podcasts.
Oui, Girol, de toute façon, on
y a même pas de cookies.
Je suis même pas sûr qu'on fasse des statistiques de visites.
Non, on les a enlevées depuis longtemps parce qu'on s'en fiche.
Je dois avouer que vu l'audimat de la radio, désolé, hein, SM, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de.
Mais on passe aussi sur station.
Sur radio, et puis il y a aussi radio station essence.
qui nous diffuse, c'est vrai. Et oui. La radio de Toulouse, je sais plus où c'en est, mais qui nous diffusait aussi. Onde Courte qui nous diffusait aussi.
Au final, mais on n'a pas statistique. On sait même pas exactement où on est diffusé, en fait.
En plus, si ça se trouve.
De toute façon,
dans l'international, Girol.
Et attendez, au festival Zéro Déchet, j'y étais avec Unbi. Alors là, je représentais Unbi. Un monsieur est passé, m'a dit Girol, mais la radio Girol. Mince, il ne connaît pas Girol, il n'est jamais venu à Girol, il connaît Radio Girol. C'était beau. Bon, par contre, il n'avait jamais écouté. Désolé, on y a cru 30 secondes. Non. Pardon. Bon. Donc voilà, ça c'était donc le comptoir Sécu. Ils sont très très bien. Donc voilà, il y a plein d'autres sujets, je vous fais pas la totale, mais je vous mettrai le lien vers leur site dans l'article du podcast. Et si j'étais dégourdi, je le mettrais déjà sur le chat IRC, mais on va attendre 2 minutes que je libère mes doigts.
C'est ça. Mais il y en avait un autre.
Un deuxième. Eux, ce sont Nos Limites Sécu. Nos Limites Sécu, donc c'est pareil, hein, sécurité informatique. Donc là, j'en ai choisi un en particulier que j'ai écouté. Alors, je vais l'ouvrir parce que je ne sais plus à quelle date ils l'ont fait. C'était sécurité des systèmes d'information de santé. Et donc, c'était assez gratifiant sur la qualité de la sécurité informatique de nos hôpitaux, des données de santé des personnes donc qui passent dans les hôpitaux, cliniques et autres. Enfin, clinique peut-être pas si c'est privé, je pense que c'était que pour les administrations publiques. Alors, c'est l'épisode 175, je suis désolée, je suis arrivée en retard, j'ai pas... Avril 2018, je suis fière de moi, j'avais bien retenu le bon mois. Donc voilà. Et donc, bientôt, là, on devrait avoir accès. Je crois qu'il y a des pubs déjà pour le dossier médical, je sais plus comment il s'appelle, partagé. Dossier médical partagé, le DMP, qui est sorti, je pense. Hein, il fonctionne, j'ai vu des publicités. Donc, ça doit vouloir dire, ah tiens, c'est bien, j'ai cliqué sur le lien, la connexion n'est pas sécurisée. Les propriétaires DMP ont mal configuré leur site web. Ça commence bien, là, le dossier médical partagé. J'ai mis la bonne adresse.
Alors, pour info, c'est d'avoir un dossier médical complètement dématérialisé
et accessible
par tous les professionnels de santé.
C'est ça. Alors, la personne qui était invitée lors de ce
podcast,
de cette interview, oui, parce qu'ils ont des invités. Donc, lui voyait l'intérêt en termes de santé pour avoir un dossier médical partagé, parce qu'il disait, ben voilà, vous êtes en voyage quelque part, on trouve tout de suite si vous avez une allergie à un produit, vous êtes HS. En état de parler, on a toutes les informations sur vous, on sait ce qu'il faut vous donner, pas vous donner, enfin, qu'est-ce qui a déjà été fait sur vous. Donc, en termes de santé, c'est génial, ça va sauver des vies. Ça peut sauver des vies d'avoir des données partagées dans tous les établissements. Après, voilà, je vous laisse écouter. Moi, je ne vais pas faire plus de retours que ça. Je dois avouer qu'il faisait un peu peur hein, sur la qualité de la sécurité.
Je pense que les mutuelles sont très, très. Attendent beaucoup de ce fameux dossier dématérialisé.
Il ne devrait pas y avoir accès, les mutuelles.
Bah, il y a des professionnels de santé dans les mutuelles.
Ben oui, mais non.
Oui, mais en même temps.
Oui, mais non, je veux pas.
Mais bien sûr.
Et là, à côté, on se fout de moi. Oui, mais non. Toi, vas-y, dis ce que tu veux dire.
Non, j'imagine bien qu'on en parle déjà, de toute façon, pour les mutuelles, d'avoir des tarifications qui sont dépendantes des informations qu'on a sur des gens, qui sont déjà des informations qu'on recoupe avec, pour le moment, les réseaux sociaux. Qualité de vie, quel type d'activité, et ainsi de suite. Donc, après avoir... Oui, mais ça qui était déjà dans les déclarations. Donc, maintenant, en plus, on a plein d'autres informations qui sont des informations...
Les antécédents
du public.
Les antécédents.
Les antécédents, ainsi de suite.
Je me suis vu, quand je suis rentré dans la vie active, je me suis vu refuser un crédit parce que mes parents avaient été des mauvais payeurs.
Ah, c'est sympa ça, parents,
on me l'a dit. Alors, quand j'ai demandé de l'écrire, ils n'ont pas voulu l'écrire, mais ils me l'ont dit. Vos parents ont été des mauvais payeurs, j'ai eu un frère qui a laissé une ardoise aussi, donc vous êtes un mauvais payeur. Donc, vous n'avez pas de crédit. Ça laisse imaginer ce que, avec certaines données, les mutuelles pourront faire. Ah, vous avez un arrière-grand-père qui a eu un cancer de la prostate.
Bon, une maladie orpheline.
Je ne vais pas vous assurer parce que vous allez me coûter cher.
Mais oui, on sait bien que ça intéresse les assurances, ce genre de, enfin les mutuelles. On dit les mutuelles, mais c'est surtout les assurances, je pense, plus que les mutuelles, parce que c'est pas le même fonctionnement non plus. Bon, enfin, voilà. Donc, on se doute bien que ces informations sont considérées de toute façon comme des informations sensibles et que il est important qu'il y ait une bonne sécurité informatique derrière. Ouais. Vous imaginez un petit Cambridge Analytica sur l'hôpital.
En fait, tout ça, ce n'est plus ni moins que le Facebook du médical.
Oui et non, on va pas papoter. Mais peut-être que le forum avec des médecins, parce que maintenant qu'on peut consulter des médecins en ligne, il y aura peut-être des amis médecins. On va se faire. Ah, j'ai liké ce médecin, il est trop super. Bon, on le fait déjà, non? Enfin, moi non, mais il y a des personnes qui doivent pouvoir le faire.
Éventuellement.
Voilà, c'était mon petit coup de pub aux deux podcasts, donc No Limites Sécu et Comptoir Sécu, qui sont quand même.
Alors, on va se faire une petite pause musicale et je vous propose 5 petites minutes autour du jeu vidéo et je vais parler de mon expérience avec Lutris pour installer des jeux Windows.
Oh, pardon, excusez-moi, c'est l'effet Lutris. Tout de suite, je pense à Strider et là, c'est, oh,
c'est, allez, c'est ça. Voilà, j'en ai, pour ceux qui me suivent sur Mastodon, j'en ai un peu, petit peu parlé. J'ai passé mon week-end à fabriquer des installeurs Lutris pour des jeux Windows que j'ai acheté sur GOG, bien entendu. Et je reviens, j'en parlerai après une petite pause musicale. Nous allons écouter Push Again You Fake. Le morceau s'appelle Headlight de l'album Any Colors You Can't See. Et c'est pareil, toujours en Creative Commons. Partage, pas de travaux dérivés et pas d'utilisation commerciale.
Thank you. You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. Une fois n'est pas coutume, on va revenir un peu au premier sujet OpenStreetMap, parce que Vincent avait des choses à rajouter, notamment sur déjà l'infrastructure. Tu voulais parler de l'infrastructure OpenStreetMap.
En particulier de l'infrastructure OpenStreetMap France, qui a quand même quelques serveurs qui permettent à la fois de proposer des tuiles avec ce que l'on appelle le rendu cartographique stylisé français, mais aussi un rendu humanitaire.
Juste, on a parlé déjà de tuiles, on l'a pas bien défini. Une tuile est un morceau de carte en fait.
Oui, en fait, à partir des données, des petites photos. Images sont fabriquées, qu'on appelle des tuiles, qui vont représenter, par exemple, un banc va avoir un symbole. Chacune après de ces tuiles est une représentation symbolique en images des données. Donc c'est ce genre de choses qui vont être générées par les serveurs. À partir de la base de données, on fait des images et on va faire des choix sur la manière d'afficher les données de la base de données. C'est vraiment ça le rendu cartographique. Et donc, OpenStreetMap France en propose plusieurs, dont un rendu qui se rapproche un peu de certaines habitudes françaises et culturelles de voir une carte. Mais il y a aussi un rendu qui est un rendu humanitaire, qui est plus avec des orientations précises sur tout ce qui est établissement de santé, magasins, d'alimentation, qui vont mettre en avant un certain type d'informations. Et l'infrastructure en fait, de l'association est distribuée à plein d'endroits différents, effectivement, en France. Alors, on a aussi bien des entreprises comme Free et OFVH qui nous mettent à disposition des serveurs qu'on utilise et qui nous permettent d'avoir des services. Mais on a aussi, par exemple, Aquilonet qui nous met à disposition une VM, donc un espace de serveur pour aussi alimenter plusieurs des services que l'on propose. Et comme ça, on a effectivement des gens un peu partout qui nous mettent à disposition du matériel pour après pouvoir servir des tuiles, proposer des services de qualité, que ça soit des associations, des collectivités. Le département de la Gironde nous met aussi des serveurs à disposition, par exemple, que ça soit des universités. Un réseau sur Nancy nous met aussi des serveurs ou des entreprises. Et là, on avait donc des espaces et on a fait un appel à Don pour acheter par contre des serveurs pour remplir ces espaces dans les data centers. On a à peu près atteint ce que l'on cherchait à avoir, mais on s'est aussi dit qu'on allait continuer à demander de l'argent, y compris parce que ça nous permettrait, un, d'avoir un peu plus de serveurs si on en a besoin, mais deux, peut-être aussi de faire alimenter d'autres projets ou de renvoyer aussi des dons sur des projets comme Open Food Facts, comme Framasoft, qui sont des projets qu'on utilise aussi et qui sont des projets collaboratifs, bases de données ouvertes autour du logiciel libre. Voilà, donc c'est vrai que c'était rajouter cette étape-là. La base de données OpenStreetMap, elle est utilisée par les entreprises, donc de suite, ça donne plus envie à des entreprises qui utilisent ces données de faire des dons. Et on se dit, en même temps, on utilise plein d'autres outils, faisons profiter tous les autres outils de ça. Juste pour donner une idée, OpenStreetMap France, c'est 40 ou 50 personnes. Hein, c'est pas une. Après, la communauté de contributeurs, qui est absolument pas constituée des adhérents à l'association, la communauté, elle est bien plus importante. Mais l'association est composée que de bénévoles qui ont envie de soutenir le projet. Et il y a une soirée mensuelle qui est organisée ici à la mezzanine à Aquilonet. 20 rue de Toura. Une fois par mois, le deuxième lundi du mois. Et comme on est écouté ailleurs qu'à Bordeaux, a priori, dans toutes les villes diffusées.
Ailleurs qu'à Bordeaux.
Mais on est écouté aussi ailleurs.
Bien sûr, on est écouté aux États-Unis.
On a du coup des réunions de contributeurs. Il peut y en avoir à Rennes, à Nantes, à Toulouse, à Nancy, un peu partout. Donc, renseignez-vous si vous en avez envie.
Merci beaucoup.
Oui, si Bidjan nous écoute, c'est aux States.
Oui, si Stryker, d'ailleurs, c'est de lui qu'on...
Stryker, je pense qu'il nous a oubliés.
Oui.
Il nous oublie, il ne nous écoute plus. Pourtant, c'est pareil, c'est Los Angeles quand même. On avait un auditeur à Los Angeles.
On va parler de son projet, oui, de Lutris.
Parce qu'on est sympa.
parce qu'on est sympa.
Qui nous écoute plus, mais nous on parle de lui.
Alors si vous êtes du coup nouvel arrivant sur Radio Girol et que vous nous écoutez pour la première fois, hein, alors je, comme diraient certains à l'époque, l'époque de les Ubuntu Party toulousaines, si vous découvrez Radio Girol pour la première fois, vous avez de la chance. C'est toujours un plaisir immense que de découvrir quelque chose de nouveau.
Surtout, oui.
Surtout Radio Girol.
Oui. Puis maintenant, il y a tellement de.
C'est ça.
D'intervenants.
Et du coup, on parle beaucoup sur Radio Girol de Lutris. Et qu'est-ce que c'est Lutris? C'est que c'est un peu l'anneau unique du jeu vidéo sous Linux. C'est une application écrite majoritairement en Python qui se veut être un gestionnaire de bibliothèque de jeux vidéo, mais compatible avec tout ce qui peut exister. Vous pouvez installer des jeux Steam, installer des jeux Wine. Wine étant, pour rappel, l'émulateur de.
Alors, installer un jeu Wine, c'est compliqué, mais un jeu qui, un Windows
oui,
qui tournerait avec.
Oui, voilà, installer un jeu qui tournerait avec Wine, pardon.
Eh oui, désolé,
vous pouvez faire tourner vos jeux, les jeux émulés avec les plateformes les plus en vogue. Du coup, j'en ai déjà parlé ici. Moi, j'ai arrêté d'utiliser Steam tout le temps et j'ai décidé de, du coup, de
varier
mes plaisirs.
Oui, par contre, il fait de l'intégration, c'est ça que tu voulais
dire. Oui, il fait de l'intégration.
On peut jouer au jeu Steam à la place d'avoir le Steam, je sais pas quoi.
Il y a toujours le Steam, mais il y a qu'une seule interface qui permet de lancer tous ces jeux.
Que ce soit GOG, Steam ou autre chose.
Exactement. Et du coup, j'avais profité de mon passage à Lutris pour essayer d'acheter des jeux sur GOG. Alors, c'est toujours le dilemme du Linuxien. Est-ce que je dois acheter des jeux à une entreprise qui fait beaucoup de choses pour Linux, mais qui vend des jeux avec des DRM infâmes, Steam, ou dois-je acheter des jeux à une boîte qui fait des jeux sans, qui fournit des jeux sans DRM, donc j'en fais ce que je veux, mais qui en a rien à cirer de ma gueule de Linuxien. Option 2.
Oh, on peut pas dire ça pour GOG, tu es un peu dur.
C'est un peu, dans les faits, c'est un peu ça quand même. Hein. Essayer de contacter leur service technique.
Ah oui, c'est vrai que ça m'est pas arrivé encore.
Voilà.
Pour l'instant, ça marche.
Du coup, je me suis dit que, par contre, pour acheter éventuellement des jeux Windows pas chers, qui sont effectivement sans DRM, pour que je puisse les installer facilement, c'était le bon truc. Et j'ai attendu que Darksiders, parce que c'est un jeu qui m'intéresse depuis longtemps, soit en promotion pour m'acheter les deux d'un coup, le 1 et le 2, et de pouvoir facilement les installer avec Lutris. Sachant que Lutris, c'est deux choses. C'est d'un côté l'application, et de l'autre, le site internet qui permet de télécharger facilement des installeurs, des genres de scripts qui permettent donc d'installer facilement des jeux avec Lutris. Sauf que un installeur pour Darksiders version GOG, ça n'existe pas.
Tu l'as créé ?
Donc je l'ai créé.
Encore ? Il n'arrête plus de contribuer, Yorick.
Moi qui n'ai jamais utilisé de Wine ou très peu, juste pour faire des essais, pour faire tourner un Office 2016 sur Linux, par exemple, comme ça, pour essayer de convaincre mon boss de passer à Linux. Et en fait, je me suis dit, j'ai le week-end pour le faire. J'ai mis à peu près 30 minutes. Ça s'est fait relativement simplement. Et au final, ça a fonctionné. Oui.
Non, désolé, je faisais un petit chute derrière, là, il y avait des bruits bizarres.
Ah oui. Donc, je disais qu'en l'espace d'une demi-heure, j'avais créé mon premier installeur pour Wine et ça a très bien fonctionné. Mis à part que le jeu demande certaines technologies qui ne sont pas encore rétroportées sous Wine. Donc, je n'ai accès à aucune cinématique, mais le jeu tourne plutôt bien, en fait.
Abstraction au moins faite, tu peux jouer, mais tu manques toute l'histoire.
Mais j'ai ma vidéo, une vidéo à côté où je regarde les scènes cinématiques pour
t'as
comprendre.
Un turnaround. Quand on parle de bug, un contournement.
Un contournement, on parle en français. Voilà.
Oui, je sais, mais je fais ce que je peux.
Donc tout ça pour dire que, oui,
déjà
du coup,
je suis présente.
Il est très simple avec Lutris de pouvoir créer son propre installeur avec une syntaxe qui est très bien. On peut le faire directement depuis le site internet, en plus. Il suffit de se connecter, de cliquer sur « Je veux créer un installeur », de regarder ce qui se fait pour les autres installeurs. Je me suis largement inspiré de celui pour The Witcher 3, par exemple, parce que je savais que j'allais utiliser des XVK, Wine et compagnie. Et au final, ça marche très bien. Donc, je voudrais profiter, du coup, encore une fois, de ce moment pour dire merci Strikecore.
Merci.
Ce que tu fais marche super bien et c'est génial.
Alors, j'ai discuté avec lui il y a quelques jours. J'avais essayé de le motiver à nous faire une petite interview là aujourd'hui ou une prochaine pour Lutris parce que je sais plus, il avait plein de nouveautés, c'était super, il y avait plein de choses à dire, mais bon, pas réussi à le choper, puis il a pas l'air d'avoir le temps, il est pas là encore ce soir.
C'est ça.
Par contre, il m'a parlé de Proton. Et il m'a éclairé sur ce qu'on posait comme question le mois dernier. Proton que Steam, donc, alors je vais le faire en français. Steam contribue à Wine, mais il y a des choses qui Enfin, je ne sais pas pourquoi, ils ont appelé ça Proton, c'est Wine, mais leur version à eux de Wine, c'est Proton. Alors, il y a des trucs à eux dedans.
Oui, j'ai plutôt l'impression... Alors, c'est de mon point de vue que Proton, c'est un amas de technologie, c'est Wine, mais c'est aussi DXVK, donc qui est cette espèce de librairie qui transforme les appels DirectX Windows en appels Vulkan, multiplateforme. C'est aussi des trucs, des patchs qui sont appliqués à Wine que l'équipe de Wine ne veut pas intégrer dans la base, mais qui existe.
Et voilà, c'est ce que me disait Strider, c'est que en fait, nous on se posait la question le mois dernier, est-ce que oui ou non c'est reversé à Wine ou est-ce que c'est que de leur côté, parce que pourquoi avoir changé de nom, etc. Et alors, ce qu'il m'a expliqué, c'était pas que Wine refusait les patchs, mais bien que il y avait des améliorations pour Wine réalisées par Steam. Et que du coup, Lutris en bénéficiait sur certains jeux aussi, enfin, dans leurs installeurs, les versions de Wine, etc. Alors là, bon, je commence à dire n'importe quoi parce que vraiment, je suis pas compétente. Donc je vais arrêter. Mais a priori, Lutris bénéficie aussi de ces innovations.
J'ai un peu mis le pied dans Wine. et ce qu'il apparaît, c'est que effectivement, il y a des patchs qui sont proposés qui suivant ce qu'on veut utiliser comme logiciel sous Windows ou comme jeu, hein, fonctionne bien ou au contraire grève largement les performances. Donc il y a des choses qui sont pas intégrées, c'est ce que je disais, dans le tronc commun de Wine, mais qui des façons de compiler et puis des petits add-ons comme Async par exemple ou comment il s'appelle un patch qui permet de async un genre de Wine serverless qui n'a pas besoin d'un Wine server pour tourner. Notamment pour les subprocess, enfin des choses assez compliquées. D'accord. Et mais qui en nécessite du coup qui améliore les performances sur certains jeux, mais qui nécessite de pouvoir ouvrir plus de descripteurs de fichiers dans ton système, donc d'avoir accès à plusieurs millions de fichiers en gros de faux fichiers en un instant, et donc de modifier certains paramètres de ton noyau. Donc il y a des choses effectivement qui sont développées ou qui sont intégrés dans Proton, pas forcément développés par Steam, mais qui ne pour l'instant n'ont pas le droit de citer dans le code de base de Wine pour des questions de compatibilité générale.
D'accord.
Voilà. Et sur ce, on va vous laisser parce qu'on a déjà une demi-heure de retard.
On avait un quart d'heure de retard, si j'ai bien compris.
Mais on a eu beaucoup de choses à dire.
Et donc on a fait un quart d'heure de plus.
Okay. Alors, on va remercier toute l'équipe d'Aquilonet
de nous accueillir
aussi bien notre infrastructure que du coup qu'ils accueillent maintenant, que nous accueillent ici dans les locaux de la mezzanine. On va te remercier à toi Vincent d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Nous, on se retrouvera maintenant au mois de janvier. On aura changé d'année, mais on sera toujours là, en forme. Peut-être le foie un peu grévé par toutes les victuailles du premier de l'an et de Noël. Mais bon, on sera quand même là.
Pas moi.
Passez tous de bonnes fêtes.
Voilà. Non, mais je le dis déjà, c'est pas grave.